Alors, admettons que vous deviez éditer ce texte et donc lui donner un titre. Quel titre donneriez-vous à ce passage ? Qu'est-ce que vous donneriez comme titre ?
Les eaux desséchées.
Les eaux desséchées. Oui. C'est la journée de François. Hein, ouais.
Il y a deux textes qui sont très différents. Je me demande si le deuxième qu'on vient de lire là,
oui,
est la suite du premier.
D'accord.
Je ne sais pas.
Ok.
Donc le titre que tu demandes, ça s'attache à quoi ? À l'ensemble des deux ou à l'un ?
Sens-toi libre de répondre en interprétant ma question. Je dis un titre, tu veux en donner trois, tu peux en donner trois.
Résurrection
des morts.
C'est-à-dire que dans un premier temps,
c'est même très physique.
Mais dans un deuxième temps, on pense que c'est en fait une vision qui prouve que les anciens d'Israël seront témoins de la. C'est ça qui signifie leur vie à nouveau, ils seront témoins de la sanctification d'Israël.
Donc, résurrection des anciens d'Israël. Résurrection des générations précédentes.
Voilà.
D'autres idées ? Là, on va déjà un peu dans cette. Rassemblement. Oui.
Oui, les squelettes qui s'associent de. C'est très filmique de façon moderne.
Oui. Enfin, mettez ça en film, ça ne va pas être triste, mais d'accord.
Il y a aussi le rassemblement au départ. Il y a aussi le fait qu'une fois ressuscité, ils reconnaissent Dieu comme un Dieu agissant.
D'accord. Donc il y a une sorte de confession de foi. Oui.
Je pense qu'il ne peut pas y avoir de rassemblement tant que l'action de l'Esprit ne s'est pas manifestée. Il n'y a pas eu la régénération.
Donc, pas de rassemblement sans la régénération produite par l'Esprit, par le souffle.
Oui.
La résurrection d'un peuple.
Résurrection d'un peuple.
Rassembler ce qui était
part, comme les grappes autrefois épars, c'est maintenant rassemblé. C'est la didaké pour la célébration de la scène. D'accord. On verra ça.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai essayé de voir, je l'ai lu le texte du grec, c'est que j'ai juste une petite note dans la tome,
oui,
qui disait qu'on différenciait justement l'esprit et la chair.
Dans ce texte, oui.
Et je me suis demandé, j'ai pas accès, si c'était la même, apparemment on a l'air de faire une allusion au fait qu'en hébreu comme en grec, il y a une différence entre pneuma et psyché, c'est-à-dire c'est pas l'esprit, c'est pas résurrection par l'esprit, mais moi j'étais sensible, les os, la chair.
Alors ici il n'y a pas de psyché. Hein.
C'est pas, oui.
Ici il n'y a pas de psyché, il y a
c'est
le pneuma.
C'est pneuma.
Ouais. C'est, en fait.
C'est Charles Lang, je veux dire.
Ouais, d'accord. Bon, on verra ça. D'autres idées éventuellement.
Ça concerne pas vraiment les morts, mais les exilés, non.
C'est une hypothèse, en effet. Alors, vous voyez que dans le choix de ces titres, il y a deux façons de faire. Il y a la façon qui consiste à reprendre un terme du texte, par exemple « rassembler »,« rassemblement », l'utilisation aussi du mot « esprit ». Et puis, il y en a un autre qui consiste à utiliser un mot qui n'est pas du tout dans le texte, en l'occurrence « résurrection », qui induit une sorte de projection personnelle de ce que le texte veut nous dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque à donner un titre comportant un mot-clé n'apparaissant pas dans le texte, c'est du coup de rajouter un niveau de sens. Alors, mon idée, c'est que ce n'est pas un texte de résurrection, mais ça parle de résurrection. Martine, vous avez une suggestion ?
D'éviter plutôt le mot résurrection
immédiatement quand même pour dire que vivre en causatif, vivre, on le trouve dans le texte, et c'est par ce terme aussi, terkatanitim, que les rabbins parlent de la résurrection. Alors c'est pas complètement hors.
Non, on peut considérer qu'à l'époque d'Ézéchiel, l'idée de la croyance en la résurrection n'est pas encore établie, et qu'il se pourrait bien qu'Ézéchiel, avec ce texte, pose les bases d'une croyance à venir, en fait. C'est-à-dire que sa façon de présenter l'événement, dont on va essayer d'en dire plus, donne matière ensuite à penser la question de la résurrection, notamment parce que, comme vous le disiez, c'est très filmique, et c'est donc très facile d'imaginer une sorte de processus. Certains vont jusqu'à dire que ce qui nous manque dans les évangiles au moment de Pâques, c'est justement la description de la résurrection. La difficulté est lorsque l'on considère que la résurrection s'appuie sur ce processus pris au sens littéral du terme. Donc on va voir s'il s'agit d'un texte à prendre au sens littéral du terme, au sens symbolique ou métaphorique, si ça a un rapport avec l'histoire, si ça a un rapport avec, disons, l'existence humaine. Après avoir comme ça balayé un peu, je propose qu'on rentre dans le texte et on va le prendre verset par verset. Et ce coup-ci, on va essayer de se plonger un peu plus dans le texte hébreu qui contient des éléments auquel vous méritez d'avoir accès. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Bien. Donc, il y eut sur moi la main de l'Éternel, enfin oui, la main de tétragramme de l'Éternel, qui me fait sortir dans l'esprit et l'Éternel donc me dépose au milieu de la Béka, donc de la plaine. Donc vous voyez, quand vous entendez sur le plan historique la plaine de la Béka, c'est une sorte de redondance. Béka, ça veut dire la plaine. Et elle était pleine d'ossements. Alors, il y a là quelque chose qui peut saisir l'imagination, mais il faudrait que ça nous saisisse d'abord sur le plan culturel, en fait. Parce que ce qui est le plus choquant pour le lecteur contemporain d'Ézéchiel, c'est pas qu'il y ait des ossements, c'est que les ossements soient sur la plaine. C'est-à-dire que le problème, c'est que les ossements ne sont pas enterrés. Parce qu'il y a là une sorte de profanation, en fait. C'est-à-dire que l'idéal hébreu, c'est de mourir, enfin, non, c'est pas l'idéal de mourir, mais c'est d'être enterré avec ses ancêtres. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez qu'il va y avoir une promesse faite à Joseph qu'on emporte ses ossements et puis qu'on puisse les enterrer dans le lieu où il y aura tous les ancêtres. Et on dit que lorsque Josué meurt, eh bien, on l'enterre avec les ossements de l'ancêtre, etc. Donc, qu'il y ait des ossements à la surface, c'est une sorte de profanation. Et là, il y a un problème. Tchic, tchic. Oui.
Le contexte, ça fait parle de tuer. Je pense que c'est un champ de bataille qui est
les Oui, on va voir après, mais qu'il ce soit un champ de bataille ou pas, le problème, c'est que les gens n'ont pas été enterrés. S'il n'y a plus que les eaux, on va voir que c'est des eaux très secs, on l'a entendu, c'est quand même, il y a eu un temps où il y a eu la décomposition. S'il y a eu décomposition, c'est que ce n'est pas simplement le champ de bataille au soir de la bataille, c'est quand même quelques mois après, à tout le moins. Donc, il y a eu une sorte de mépris des corps. Alors, juste, il y avait d'abord Martine. Mais il y a pire qu'Ézéchiel, c'est que Dieu doit éviter les morts. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on n'a pas le sujet, en fait, du verbe. Hein, on comprend bien que c'est l'Esprit de Dieu, donc c'est Dieu, mais on s'arrange pour que Dieu ne soit pas convoqué dans ce champ de cadavres. Parce que, évidemment, c'est tout sauf pur. Et de fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est interdit, et à savoir être au contact d'un cadavre, va être fait selon l'ordre de Dieu. Et donc, il y a ici une profanation de la profanation, c'est-à-dire que ce qui a été profané, c'est d'abord les corps, et ensuite il y a une profanation de l'interdit de contact avec les cadavres, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lieu qui serait exclu de la présence du prêtre qui tient lieu de Dieu. Oui. Moïse a été enterré par Dieu lui-même, ce qui n'est pas rien. Excusez du peu. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si un jour on étudie la fin de Deutéronome, on verra ça ensemble. En tous les cas, Moïse a été enterré. Et quand on n'est pas enterré, on est enlevé au ciel. Mais en tous les cas, vous voyez, ou alors, éventuellement, on est brûlé, ce qui arrive à Saül, par exemple. Il y a, à un moment donné, quelques textes qui s'interrogent sur ce qu'on fait des cadavres. Et en fait, le pire qui puisse arriver à un cadavre, c'est d'être laissé comme cela. Joseph d'Arimathée s'arrange pour avoir rapidement la dépouille de Jésus, c'est pour éviter la dégradation, en fait. Il y a une sorte de prescription très importante vis-à-vis du cadavre. Et comme le disait Martine, il y a aussi des prescriptions très importantes sur le non-contact avec les cadavres. Ce qui explique que les prêtres sacrificateurs qui se promènent de Jéricho à Jérusalem ne s'arrêtent pas pour porter secours à cette personne dont le texte dit qu'il est laissé à moitié morte. C'est-à-dire, dans la mesure où ils ne savent pas s'il est vivant ou mort, ou supposé qu'il soit mort, eh bien, ils deviennent impurs et donc ils ne peuvent plus faire leur travail de prêtre.
Est-ce que les eaux blanchies, dans ce cas ici,
comment ça blanchit?
Ah oui, les eaux secs.
Ah d'accord.
Est-ce que c'est quelque chose qui est, c'est quand même quelque chose qui est différent du phénomène de la décomposition? Alors, l'impur, moi je le.
La décomposition
dans l'esprit des juifs, bon, effectivement, je pense que c'est quelque chose de vraiment impur.
Oui.
Et là, des eaux secs, blanchies, qu'on trouve. Est-ce que ça rentre dans la même catégorie?
C'est jamais que l'étape ultérieure. Donc, au niveau de la dégradation, oui, bien sûr. C'est du cadavre. Néolithique ? Néolithique ? Alors, à votre avis, comment notre prophète Ézéchiel, comment ça marche ce transport par l'esprit ? Ça veut dire quoi ça ? Je fus sorti en esprit. Alors, ça peut être un rêve. Qu'est-ce que ça peut être encore ? D'accord, vision, rêve, songe. Autre chose ? Dans les possibilités, disons. Même si ce n'est pas ce que vous pensez, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Téléportation actuelle physique.
Voilà, téléportation éventuellement. Mais. Oui, ouais, c'est ça, oui. Ça peut être une figure littéraire. Il y a encore une autre possibilité.
Ça peut être une consolation par rapport à un état dans lequel se trouve Ézéchiel à ce moment-là.
Alors, pour aller dans votre sens, mais en décollant un petit peu, ça serait, disons, une sorte de vision extatique. C'est-à-dire que ce serait, par exemple, une hallucination, ou alors ce serait une construction psychique qui répond à un besoin. En tous les cas, une vision. Et pas simplement une construction littéraire. C'est dans l'ordre des possibles. Effectivement, là, les quatre hypothèses que nous envisageons peuvent être une réponse à sortie en esprit. Et voilà. Vous savez qu'on a des fois accusé Ézéchiel de prendre quelques substances hallucinogènes, par exemple. Ce qui expliquerait... Alors, les commentateurs vont souvent sous l'angle du rêve ou de la vision extatique et rarement sous l'angle de la composition littéraire, alors que quand on a vu cette première vision inaugurale du livre d'Ézéchiel, j'avais essayé de vous rendre attentif au fait que Ézéchiel utilisait en fait les instruments, les objets du temple pour les recomposer en une vision synthétique qui permettait de transporter le temple d'un endroit à un autre. Ça rendait le temple mobile, là où il était. On peut très bien considérer que là encore, Ézéchiel va construire une vision qui permet de répondre à la situation à laquelle il est affronté là, à ce moment-là.
Oui. C'est pas la vision d'un mystique, Ézéchiel, pour moi, c'est pas un mystique, pas par rapport à l'Apocalypse, Jean d'Apocalypse, c'est un vrai mystique, là, non ?
Pourtant, au niveau littéraire, c'est quand même assez proche de l'Apocalypse. Hein.
C'est un symbole, c'est une forme de personnage.
Oui.
Au travers de ce texte, ça ne donne pas l'effet de la vision d'un mystique.
Moi, je ne vois ni du côté de la mystique, ni du côté psychiatrique.
Oui.
Il n'y a pas de substance. Moi, je vois ça comme une inspiration pédagogique très pointue,
mm-hmm.
avec un signifiant qui va très, 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 très loin, qui n'est peut-être pas compris, mais qui est quand même exprimé. Je vois une sorte d'inspiration pédagogique. Une bonne inspiration au bon moment.
Ce qui rejoindrait la construction littéraire. Même s'il y a le souci de rejoindre une structure de lettres.
Oui, mais quand on dit littéraire, il y a un passé déjà. Là, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui surgit.
D'accord.
Et qui peut justement être mal compris, c'est une énigme.
Ou métaphore.
Alors, au verset 2, il y a donc la mention du fait qu'il passe au milieu. Donc c'est là que la remarque de Martin est particulièrement saisissante. Hein. C'est-à-dire que Ézéchiel est réputé être physiquement au milieu, donc au contact. Ils étaient donc très nombreux et ils étaient... Sec, comme la terre sèche, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est la terre sèche, c'est la yabasha. Et là, c'est yabash aussi pour dire qu'ils sont secs.
Ça veut dire que ça fait très longtemps qu'ils sont morts.
Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans une ambiance de récit de la création aussi. Je crois que c'est Zimmerli, d'ailleurs, qui dit ce texte est là pour... donner un caractère très radical, en fait. C'est-à-dire que quand vous dites effectivement très sec, il y a un côté radical qui montre que l'action de Dieu va pouvoir donner toute sa mesure, y compris dans l'expérience la plus extrême qui soit. C'est-à-dire le très sec ne va pas empêcher l'action divine de se dérouler et de réaliser quelque chose. On peut considérer que l'os a perdu sa moelle. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il n'y a plus rien, mais c'est un peu... Enfin, c'est paradoxal, en fait, parce que dans la pensée biblique, en tout cas, mais peut-être hébraïque, l'os, c'est la substance, en fait. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas l'os de la moelle de l'os. L'os, c'est ce qui permet de dire la substance de la chose. La substance de l'être, par exemple, l'os, c'est la personne. Mais quand on veut parler de ce jour-ci, de ce jour, de la qualité du jour, on dit l'os du jour. L'os du jour, c'est le cœur du jour, en fait, vous voyez. Et donc, dire que l'os est très sec, c'est un énoncé paradoxal parce que si l'os est très sec, en fait, c'est plus un os. Vous voyez, la substance sans substance, est-ce que c'est encore de la substance ?
Mais sur les
Oui.
Il y a quand même un élément, comme vous le disiez, une sorte de tradition qui se perpétue.
En tous les cas, ici, on trouve les premiers éléments qui peuvent donner la matière pour d'autres visions à venir. Il me dit, fils d'homme, ces eaux vivront-ils vraiment ? Et et la réponse, c'est Seigneur, toi, tu sais. Donc, on peut comprendre cela de deux manières. Soit c'est la confiance d'Ézéchiel dans la connaissance de Dieu, il y a une sorte de confession de foi, ou alors il y a une sorte de figure rhétorique qui est une façon de dire « Dieu seul sait », quoi. Oui. Autrement dit, qui peut savoir ? Oui. Mais la question est là, hein. Donc on va s'y intéresser un petit peu. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la lamentation aussi ?
La lamentation de qui, du coup ?
D'Ézéchiel.
Est-ce que ce n'est pas la lamentation de Dieu ?
J'ai l'impression que Dieu, en fait, c'est un peu d'humour.
Ouais. Est-ce que c'est de l'humour au sens... il mettrait Ézéchiel en situation difficile, c'est-à-dire, je dirais, au fond, j'utilise un anthropomorphisme. Dieu sait ce qui est possible, et il met Ézéchiel à l'épreuve pour voir s'il est au même niveau de connaissance que lui. Est-ce qu'il se moque de lui, en quelque sorte ?
Il a même fait du mur, quoi.
Pour moi, c'est un peu Job inversé, quoi.
Oui. Mmh.
Le fait qu'on répète tout le temps que les eaux sont très secs, c'est bien pour montrer qu'en fait, il n'y a pour ainsi dire plus rien.
Oui.
Et que c'est de ce rien que va sortir, sur lequel on va remettre le souffle et sur lequel la vie reprendra.
Alors, est-ce que, en fait, c'est pas... Ça confine au rien, mais ce n'est pas encore rien, puisqu'il y a quelque chose.
Voilà.
Est-ce qu'on pourrait le dire autrement, ce qu'il y a ? Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre terme, peut-être plus biblique ? Surtout qu'on sait qu'après, on va mettre les eaux les uns à côté des autres. Enfin, il va y avoir une réorganisation du truc. Là, je vous aide un peu. Hein ? Ouais, c'est quand même un sacré bazar, cette histoire. C'est-à-dire qu'Ézéchiel est face à quelque chose qui est sans ordre, à quelque chose de chaotique. Il fasse un tohu-bohu, en fait. Un tohu-bohu réputé être incapable de produire la vie.
Voilà. Ouais.
Puisqu'il n'y a que des eaux, que des signifiants de mort. Hein. Quand vous parlez du signifiant, là, c'est la mort qui est signifiée. Alors, ce qui arrive ici, c'est de constater que la substance de l'humain ou de l'humanité est incapable de produire la vie. Elle est en situation complètement figée et réputée mortelle. Et vous voyez que c'est là qu'est le paradoxe. C'est ce qui désigne en principe la substance de la personne est en fait le signifiant de la mort. Et Ézéchiel est face à un champ de signifiant de mort. Et la question, c'est est-ce qu'à partir de cela, la vie est possible ? Ézéchiel est en situation de crise. Est-ce que face à une crise radicale, la vie est encore possible ? Est-ce qu'il y a une sortie de crise, en fait ? Est-ce qu'on peut réinjecter de l'humanité quand on est allé au bout de la barbarie ? Tout à l'heure, vous avez un peu anticipé avec l'histoire des gens qui sont morts. Et on va voir qu'ils sont effectivement été passés par le fil de l'épée. Est-ce que les gens qui sont réduits à rien peuvent encore produire quelque chose qui est de l'ordre de la vie? Eh bien ça, si on est sur cette logique, il y a une fiction littéraire pédagogique. Ézéchiel est incapable de pouvoir dire si ça va s'arranger ou pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas la maîtrise de cela. En revanche, la suite du texte va dire il y a de la possibilité néanmoins, mais pas automatique, disons. Et voilà ce qui va être envisagé. C'est le verset 6. Donc, je vous donnerai des nerfs. Et il va y avoir aussi la chair, bachar, la peau, et ensuite le souffle ou l'esprit. Hein. Le roar, c'est souffle, esprit, vent. Et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, c'est un texte qui va distinguer ici le corps du souffle, le corps de l'esprit. Psyché, c'est autre chose, ça serait plutôt l'âme, disons. Hein. Oui, c'est le rouard. C'est ça. Non, non, c'est le même mot.
Ah, c'est le même mot.
Esprit souffle, c'est le même mot en hébreu. Mais en grec, pareil. Hein. Ici, on a quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à de la création. Même, ouais, même trois peut-être. Parce qu'à un moment donné, les hommes sont nus, puis on les recouvre de peau. Quand ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils mettent du feuillage, puis après ils ont un habit de peau. Peut-être qu'il y a cette ambiance de Jardin d'Éden, disons.
Là, c'est pas une ambiance de Jardin d'Éden.
Ouais, mais... Si on regarde le début du livre de la Genèse, Genèse 1, ben, ce qui fait venir au Jardin d'Éden, c'est quand même au départ le gris, en fait. C'est-à-dire que tout est mêlé et on ne distingue rien. Et tout le travail de Genèse 1, ça va être de distinguer le sec du mouillé, le jour de la nuit, le végétal de l'animal, etc. Et donc, ce travail de distinction, de discrimination, c'est ce qui va rendre le monde vivable, parce que ça va permettre de donner une place, un nom, une fonction à chaque élément, en fait. Et il y a bien cette idée, effectivement, en Genèse 2, qu'on crée un homme, un Adam, et on va reparler de la Adama, d'ailleurs, ici, un Adam, et ensuite, il faut encore lui mettre le souffle par les narines. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir le matériel biologique, il faut aussi avoir un souffle d'humanité, en fait. Et on peut avoir au moins deux compréhensions de ce qu'est l'esprit. On peut se dire l'esprit, c'est effectivement quelque chose, je reste volontiers vague, quelque chose appartenant à Dieu qu'il offre, qu'il dispense, qui nous rejoint et qui commence à nous habiter, par exemple. Soit l'esprit, c'est ce qui permet d'exprimer le fait que des personnes qui ont le matériel biologique se mettent en relation les uns avec les autres et que cette interaction crée de l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement des objets dans un univers, on devient des sujets. Et qu'est-ce qu'un sujet humain? C'est quelqu'un qui est capable d'empathie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de concevoir ou d'envisager ce qu'il y a dans l'esprit de l'autre, dans l'univers de l'autre. Il est capable de rejoindre l'autre dans son intimité, dans son désir, ses rêves, etc.
Ça
Où est-ce que vous avez vu du nihilo dans Genèse 1 ou Genèse 2? Le texte, en tout cas dans le livre de la Genèse, il n'est pas écrit qu'il n'y a rien au départ. Que ce soit Genèse 1 où on dit qu'il y a du tohu-bohu. Alors qu'est-ce que le tohu-bohu? C'est, je disais bazar parce que voilà. Mais en tous les cas, il y a de la matière. Et en Genèse 2, on prend quand même ce qu'il y a là. C'est-à-dire que c'est pas, ça ne surgit pas de rien, de nulle part. Non, mais on peut considérer qu'ils étaient des êtres vivants, mais pas encore humains, dans Genèse 1 ou 2. C'est-à-dire qu'ils accèdent à leur humanité par l'action créatrice de Dieu, et c'est la parole. C'est-à-dire que c'est le fait que je m'adresse à vous comme je m'adresse d'habitude aux humains qui fait de vous un humain. Alors, c'est pas que moi qui fait de vous un humain, mais je participe à vous rendre humain. Et c'est vrai de façon générale. Un enfant qui vient au monde devient humain parce que ses parents s'adressent à lui, le nomment et l'appellent à l'humanité, disons. Ce qui nous fait accéder à l'humanité, c'est une parole qui s'adresse à nous de manière humaine, disons. Enfin, je vous dis ça un peu fermement, mais il y a d'autres options hein, sur la question de qu'est-ce qui fait l'humain. Ça, ne soyez pas dupes de ma façon un peu présomptueuse de le dire.
Mais il n'en a pas moins que ce sont quand même ces êtres qui ont déjà existé pour une vie et qui ressuscitent.
Oui, bien sûr. Si Ézéchiel a devant lui vraiment des ossements. Mais il se pourrait qu'il ait devant lui autre chose que ce qu'il y a sur les drapeaux de pirates, par exemple. C'est-à-dire que peut-être s'agit-il d'une métaphore pour exprimer le fait que Israël, et d'ailleurs, en fait, c'est de ça dont il va s'agir, hein, on va le voir au verset 11. En fait, les ossements ne sont pas des ossements, c'est Israël réduit à pas grand-chose. C'est-à-dire que quand vous êtes humilié au point de ne plus être un sujet, vous êtes comme un ossement très sec. Et on peut avoir perdu toute espérance à l'égard de cette personne. On peut se dire, qu'est-ce qu'on pourra en tirer? Il n'y a plus rien à en tirer. Et peut-être qu'ici, on a un texte qui va nous dire il est encore possible de tirer quelque chose de ce peuple-là.
Je comprends parfaitement. C'est un espoir, une vie future, quand même, pour celui qui est réduit à l'état, disons.
Peut-être d'une vie présente, même, mais. Ouais. Donc, on peut.
C'est notre espoir.
Ouais. De même qu'on peut se dire. Ézéchiel est effectivement saisi comme on serait saisi par la main et transporté dans cette vallée et il voit des ossements qui vont reprendre vie tel que c'est écrit. Soit on peut se dire qu'Ézéchiel rejoint la vérité de ceux qui sont face à lui, donc du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Ézéchiel est capable de voir dans quel état le peuple est vraiment, à quel état il est réduit. Et peut-être est-il rendu capable d'avoir les paroles qui vont redonner de l'espérance à ce peuple, plus que de l'espérance, je dirais, une raison d'être. Ou peut-être une raison d'espérer, mais une raison d'être, et on verra que c'est peut-être la deuxième partie qui explique cela.
La raison d'être, c'est vous saurez que je suis éternel.
Ça serait la conséquence. C'est parce qu'il y a un signe, on ouvre les yeux, du coup. Ça fait un peu détonateur. Verset 7, c'est là qu'on voit que le prêtre devient vraiment prophète, il devient nabi, et donc c'est le verbe qui désigne la prophétie. Je prophétisais, c'est la raison pour laquelle Ézéchiel, tout prêtre qu'il est dans la section des prophètes. Je prophétisais selon ce qu'il m'avait été ordonné, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, un grondement ou un frémissement. Ça, c'est tout à fait apocalyptique. Hein. C'est le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si j'ai noté la référence, mais on doit voir ça au premier chapitre, dans les premiers versets. Hein. Chapitre 1, verset 10. Donc il y a quand même un genre apocalyptique assez présent. Et c'est ce qu'on avait aussi au début du livre d'Ézéchiel, au chapitre 3. Chapitre 3 où Ézéchiel était déjà transporté dans une vallée. Il était déjà transporté et il allait avoir un geste prophétique, donc il allait être ligoté, etc. Mais cette vallée, elle a déjà été en fait visitée au chapitre 3.
Quand je prophétise,
ouais.
Je prophétise.
Ouais.
Je prophétise à qui ? Au peuple vivant ? Parce que quand on lit ce texte, on a l'impression qu'il prophétise devant des ossements.
Ouais.
Il racontait sa vision. Il disait, voici ce que l'Éternel prophétise à des gens vivants.
Bah, en fait, ouais, ça, tu mets le doigt sur le nœud de la narration, en fait. C'est-à-dire que si j'essayais de transposer, d'actualiser, sans prendre une situation particulière, mais prenons une famille, par exemple. Avec deux parents et des adolescents. Des adolescents un peu adolescents, quoi. Donc, il y a un des parents qui considère que, bon, voilà, il n'y a plus rien à tirer de ces adolescents. C'est comme des ossements desséchés. Mais l'autre, ce n'est pas des ossements desséchés qu'il a devant. Ce sont des adolescents pleins de vie. Potentiellement, ils peuvent encore réussir leur vie. Eh bien, alors qu'il y a voilà, que des ossements desséchés à voir, l'autre s'adresse effectivement, comme tu le dis, à un peuple vivant, des adolescents vivants, et il prophétise en leur disant une parole juste, qui va leur redonner un peu d'élan, alors que l'autre a l'impression qu'ils ne peuvent plus avancer, quoi. Ils sont allés au bout de leur parcours. Et donc, c'est tout le problème de la réalité. Pour certains, on est face à quelque chose de mort, et pour d'autres, on est face à quelque chose qui a encore du jus. Il y a encore quelque chose à donner, oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'un prophète est un médiateur entre le peuple et Dieu, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ?
Il serait plutôt un révélateur, je dirais. Alors, il y a certains prophètes qui sont des voyants. Samuel est un voyant, par exemple. C'est-à-dire qu'il voit les situations dans leur intimité, dans leur profondeur. Ils ne s'arrêtent pas à la surface des choses. Et puis, ici, il serait effectivement un peu médiateur. Oui, au sens où il remet le peuple face à quelque chose de stimulant, quoi. Pour éviter de dire face à Dieu, il remet le peuple en connexion avec... sa destinée, en quelque sorte. Il reconnecte l'histoire avec le peuple qui est là.
C'était une fonction, je dirais, presque officielle.
C'est une fonction...
Le statut de prophète.
Oui. Alors, il y a un autre aspect de la fonction prophétique, c'est le contre-pouvoir. Et c'est une fonction qui apparaît en même temps que la royauté. C'est-à-dire que c'est une fonction qui arrive comme contre-pouvoir du roi qui pourrait être absolutisé. Donc, en fait, c'est d'abord le prophète qui institue la royauté. C'est quand même Samuel qui institue Saül, le premier Messie. Et ensuite, c'est le prophète, on pense notamment à Nathan avec David, qui va ramener David à de meilleurs sentiments, qui va lui faire prendre conscience de certains méfaits, etc. Donc, le prophète... Et là, comme le petit aiguillon pour que le roi ne soit pas trop imbu de sa fonction et de sa personne. On pourrait dire qu'il y a une logique d'opposition. C'est pour ça qu'hier, au sujet de Jacques Ellul, on pouvait considérer que Jacques Ellul était un prophète, au sens où il prenait le contre-pied du courant majoritaire. Continuons. Je prophétisais, etc. Grand bruit, les os se rapprochent. Un os, chacun, un os de son os. Donc c'est un os vers son os. Donc vous voyez, il y a une sorte d'ordre. C'est-à-dire que l'os vers son os, c'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe comment. Hein, on met bien le radius avec le cubitus, machin, tout. Pardon ? Bah, il y avait une connaissance médicale, mais là on nomme pas les ossements, par exemple. Mais on a vu, tout le monde a vu des morts, donc on sait comment ça fonctionne. Et puis, pensez que Ézéchiel est prêtre, donc il faisait des sacrifices, donc il faisait la dissection, donc il sait ce qui se passe sous la chair, sous la peau. Donc pour le clergé, il n'y a aucun problème à pouvoir faire une description de la machine animale. Voilà.
Et dire que ça rejoint la création, parce que quand on reconstitue un squelette, ce n'est pas le chaos, les bras...
C'est ça, on met en ordre.
Oui, voilà.
Et donc c'est un acte créatif.
Voilà.
Ouais, on organise, on réorganise ce qui était chaotique. Il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils d'homme, et dis au souffle, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents et souffle sur ces, donc les tués, c'est Arag, et c'est effectivement ceux qui ont été transpercés par l'épée. Donc c'est la mort extrêmement violente, c'est pas ceux qui sont morts de leur belle mort, de leur mort naturelle. Est-ce qu'on peut dire grand chose de plus à ce sujet Peut-être, c'est que l'épée, c'est aussi un attribut politique. Quand Élie, par exemple, a sa vision avec... enfin, d'ailleurs, c'est plus une audition, la voix de fin silence qui l'institue pour faire régner le droit. Comment le droit va-t-il régner? Parce qu'on va mettre l'épée dans la main de quelques personnes. Et donc c'est une façon de rendre la justice. Et donc, on peut considérer que les personnes ont soit été blessées sur un champ de bataille, soit qu'elles ont subi une politique qui les a conduits à cet état-là. Donc, soit c'est une mort, disons, physique, soit on peut considérer que c'est le résultat d'une politique. Et on sait que Ézéchiel, comme Jérémie, comme Ésaïe, ce sont des écrits politiques, hein, où on parle des alliances avec les autres nations, avec qui il faut s'allier, de qui il faut se méfier. Et puis on est dans une situation de déportation, donc c'est une situation extrêmement politique. Ah, Jude, j'ai oublié de vous rendre attentif à un petit... Allez, pour vous amuser un peu avec de l'hébreu. Donc, là, pour vous, j'écris à peu près deux fois la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Car, comme d'habitude, c'est toujours le même problème, souvent. Tout se joue ici. Voilà. La deuxième lettre n'est pas la même lettre. Dans le premier cas, c'est « karam », et dans le deuxième, c'est « kadam ». Et c'est le verbe au moment où on va recouvrir les ossements. Et alors, c'est trois fois rien. Simplement, il y a des variantes dans les différentes versions des textes. Et alors, il y a une question, c'est de savoir quel est le bon verbe. Alors, ce qui est étonnant, c'est que il y a un verbe qui n'apparaît jamais, c'est le premier, mais c'est celui qui est utilisé pour recouvrir. Et puis l'autre, qui signifie avancer, et qui pourrait comme faire croître, et donc c'est comme cela qu'on pourrait mieux le traduire. Vous voyez, plutôt que de recouvrir ou d'envelopper, ça serait plutôt faire croître, faire venir. Il y a une idée de dynamique plutôt qu'une idée d'emballement. Donc ça, c'est pas très très important sur ce genre de passage, mais c'était plutôt pour vous rendre attentif au fait que les textes présentent parfois des difficultés, Et puis, si vous avez acheté le livre d'Éric de Putter sur la méthode en exégèse, vous avez vu qu'il y a toute une partie de vocabulaire sur des mots exégétiques. Eh bien, il y a, je crois, un terme qu'il a oublié, c'est le paragraphisme. Eh bien, c'est ça le paragraphisme. Le paragraphisme, c'est quand le resh et le dalet sont très proches et qu'il peut y avoir une confusion, une inversion. À titre hypothétique. Hein. Voilà. Toujours est-il que le premier, donc, karam, est un apax. On le trouve qu'au verset 6 et au verset 8, dans toute la Bible, alors que le deuxième, s'avancer, kadam, est un peu plus utilisé. On revient à notre texte. Il y a... voilà, tout s'accomplit. Les quatre vents, on l'avait déjà vu avec, avec la vision inaugurale. Ils prophétisent, le souffle entre en eux comme Adam reçoit le souffle. Ils vivent et ils se tinrent sur leurs pieds. Et donc là, le verbe « amad » est intéressant parce que c'est être dressé, être debout. Non, c'est pas « koum », c'est pas relever, c'est se tenir. Donc « koum », ça serait mieux comme terme pour la résurrection. Mais là, c'est plutôt oui, se tenir droit. Donc c'est un peu le résultat, en fait. Hein. C'est être remis sur pied. C'est exactement le terme, d'ailleurs. Ils se tinrent sur leurs pieds. Et donc, c'est une armée grande, meode, beaucoup, beaucoup. Donc très grande. Grande, infinie. Et alors, c'est là que le verset 11 peut être la clé herméneutique qui nous fait comprendre comment il faut lire cette vision. Ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos sources sont desséchées et notre attente a péri. Nous sommes retranchés. Donc, oui, nous sommes hors jeu. On est sur le banc de touche. Et donc, ça rejoint ce que disait François. En fait, Ézéchiel est face à un peuple d'êtres vivants. Mais d'êtres vivants qui sont effectivement dans le registre de la lamentation. Et en fait, c'est le peuple qui est dans la lamentation. Où ils se disent, mais on n'a plus rien à espérer. Enfin, c'est fini pour nous, en quelque sorte. Voilà. Nos eaux sont desséchées. C'est en fait la reprise de ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Et donc, c'est là le jeu d'Ézéchiel. C'est de partir de la réalité exprimée par le peuple et de la subvertir pour leur faire voir une autre réalité. En fait, il les confronte au réel, on va dire selon Dieu, et donc cette réalité dernière. Non pas ce qu'ils ont sous les yeux, non pas les circonstances du moment, mais voir un peu plus loin.
Et notre attente a péri.
Oui.
Ils n'ont plus aucun espoir. C'est grave de se filtrer, de se trouver dans une situation pareille.
Oui, oui, c'est ce que bien des personnes disent encore de nos jours, individuellement. Oui.
Je suis peut-être un peu loin, mais le fait que l'eau se desséche, il y a une absence d'eau, ça c'est pas la logique. Et c'est vrai que je ne peux pas empêcher de penser que l'eau a quelque chose à voir avec le mouvement, avec la vie aussi avec le mouvement. Je dirais qu'il y a plutôt une espèce de sidération qui essaie de transcender avec le texte.
Oui, oui, oui. Rien à ajouter à ce que vous dites, oui. J'utiliserai pas forcément le terme de l'eau parce que ça crée une ambiguïté sonore, mais oui, d'accord. Oui, oui, c'est pour ça que je parlais de substance, c'était plus facile, mais oui, oui, tout à fait. Quand je parlais de dépasser une réalité, c'est ça, hein, c'est transcender ce qui sidère le peuple. Et donc, c'est là qui est intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est le verset 12 qui me plaît bien, mais je ne peux pas vous l'imposer. Donc, c'est pourquoi continuer à prophétiser. Hein, et dis-leur, ainsi Adonai Yahou parle. Voici, Donc j'ouvrirai vos tombeaux et vos sépulcres. Je vous ferai monter de vos tombeaux. Alors là, je reviendrai après sur mon peuple. Et je vous amènerai, je vous ferai venir vers Adamat Israël. Alors, c'est juste de traduire par la terre d'Israël. Adamat, c'est Adama, c'est la terre. Mais quand je vous disais Adama, c'est Adam aussi. Et est-ce qu'il n'y aurait pas là l'idée qu'on ramène le peuple non pas sur un cadastre, mais dans son humanité? Est-ce que justement le fait de restaurer l'espérance, ce n'est pas restaurer l'humanité du peuple? Et donc, plutôt que de vouloir en faire un texte nationaliste qui dit l'espérance, c'est de retrouver Eretz Israël, on a un texte qui nous parle de la Adamat Israël et donc de l'humanité d'Israël, donc notre humanité. C'est-à-dire que quand on est au bout du désespoir, eh bien, la promesse qui est faite, c'est de pouvoir venir vers notre humanité. Revenir éventuellement, mais c'est pas la teshuva non plus.
C'est un recommencement.
En quelque sorte, oui. C'est pas un retour, c'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle création. Et donc, il s'agit pas de retrouver un âge d'or, il s'agit de fonder un avenir. De se fonder un présent même, en fait. De créer les conditions de vie pour aujourd'hui.
De façon tout à fait détournée et opportuniste, je vais ajouter.
Oui.
J'ai eu en main le recueil de traduction des béatitudes dans les études judéo-chrétiennes et dans les béatitudes...
Publié dans Évangile et Liberté.
Alors c'était Francis Dieny.
Oui.
Et j'ai vu, justement, pour la première fois, j'étais justement ce rapprochement entre Adam et Adama.
Mm-hmm.
Et la traduction qu'on voudrait un petit peu laisser à partir de ce rapprochement, c'est heureux, enfin, ils auront en héritage l'humanité,
mm-hmm.
et non pas la terre. Mm-hmm. Et ça m'avait beaucoup intéressé de découvrir ça.
Oui. Ce qui fait dire, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, très souvent, qu'on est étranger, résident temporaire sur cette terre, parce que on est citoyen d'une patrie céleste. La patrie céleste, c'est l'homme dressé, en fait. Et du coup, c'est pas là où se trouvent nos pieds qui est intéressant. C'est là où se trouve notre cœur, pour reprendre la formule de l'Évangile. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Là est ta patrie, en fait. Bon, après, je peux mettre au garde-vous de ça et vous faire un discours super vibrant, tout ça, mais... Bon. Donc, on pourrait dire, ici, c'est l'adamitude qui est en jeu. Très bien, c'est un concept, ça, hein, l'adamitude. Blanchi. Vas-y, sors-le, le sépulcre blanchi.
C'est comme ça que Jésus traite les parisiens. Voilà. Mais c'est un terme qu'on utilise toujours pour le
sépulcre. Oui.
Et pas du tout avec la même connotation, je trouve que c'est vraiment, on a l'impression que c'est que ce terme de sépulcre, là, c'est une malédiction, enfin, c'est quelque chose qui est, c'est pas la dernière demeure, hein. c'est quelque chose...
Oui, oui. Souvent, une malédiction, c'est pas mal. Oui. Souvent, je vous dis que les textes bibliques s'arrangent pour mettre des indices pour éviter de prendre les textes au pied de la lettre. Ici, on dit qu'on va ouvrir les sépulcres, alors qu'en fait, les ossements ne sont pas dans les sépulcres, ils sont sur la vallée. Donc, vous voyez, il y a une sorte de contradiction dans les termes. Mais contradiction pour éviter de prendre le texte au pied de la lettre. Du moins, c'est mon hypothèse. Et pour nous faire comprendre qu'on est en train de mettre en place une sorte d'ambiance pour parler de la situation en général. Mais ouvrir les sépulcres, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas de sépulcre. Si ce n'est que si, en fait, comme tu le dis, il y a une malédiction, c'est une sorte d'enfermement dans une prison qui nous empêche de vivre. Mais une prison... fictive, là aussi, métaphorique. C'est-à-dire que Il y a autre chose encore, hein. C'est qu'en fait on change d'anthropologie avec Ézéchiel. Quelle idée de la mort ? L'idée de la mort, c'est qu'on descend au Sheol, mais on garde notre forme. On est soit endormi, soit on continue à être, mais il n'y a pas d'histoire de devenir comme des ossements desséchés, en fait. L'idée de la mort, c'est qu'on est corporellement le même, sauf qu'on n'a plus le souffle, mais on garde la forme, vous voyez ? On garde, on est endormi, voilà, ou alors on continue à exister dans un univers souterrain, des choses comme cela. Mais l'idée qu'il y a cette décomposition, c'est pas la pensée dominante. Donc le fait d'utiliser l'imagerie des ossements desséchés, ça désigne une réalité autre que la mort au sens fin du processus biologique. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement une forme, on est aussi une perspective. On est, voilà, on est un être en mouvement avec une terre promise et une terre qui n'est pas justement limitée par un cadastre. Territorial.
Je veux dire que la mort, c'est un peu comme Lazare, c'est dans un grand sommeil, mais plus que le sommeil qu'il nous faut pour continuer à vivre. Là.
Oui, oui, c'est quand effectivement on est. Il y a une expression comme ça là, quand on parle de quelqu'un comme d'un zombie. Hein? Et ben, un zombie, c'est quelqu'un qui a une activité biologique, mais qui n'est pas là, quoi. Voilà. Et des fois, on est avec des personnes qui ne sont pas là. Voilà. Certains, on dit plutôt qu'il est comme éteint. Bon, aujourd'hui, on dirait qu'il voilà, est éteint. Alors, j'ai une autre question, c'est... on a vu mon peuple. Je trouve que mon peuple, il est bizarre. Et le verset suivant, il est bizarre aussi. « Vous saurez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos sépulcres, que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres, mon peuple. » C'est bizarre, c'est bizarre. En français, ça sonne bizarrement. En hébreu, il y a une ambiguïté. Bon, il y a une ambiguïté moyenne. Mais l'ombre d'ambiguïté, je la saisis. Le grec a traduit « mon peuple ». Bon, donc c'est quand même un indice fort que s'écrit « mon peuple ». Mais, en fait... C'est écrit ça. Et alors ça, en fait, tel quel, ça peut vouloir dire deux choses, sauf erreur de ma part. Ça dépend comment on le prononce. Soit on le prononce « ami », et dans ce cas-là, c'est « mon peuple », soit on le prononce « imi », et dans ce cas-là, c'est « avec moi ». Je pense. Alors au début, les textes sont écrits sans les vocalisations. Donc le premier lecteur l'a a priori sous cette forme-là. Et donc l'ambiguïté est possible. Pourquoi mon peuple vient là ? C'est bizarre en apposition. Oui. Imi, ça pourrait être intéressant. C'est l'idée selon laquelle je vous ferai monter hors de vos sépulcres avec moi. Tout à l'heure, on disait, pour commencer, c'est bizarre qu'Ézéchiel soit dans cette situation au contact des cadavres. Et puis, je rajoutais, et pour Dieu, c'est encore pire, finalement. Et ici, c'est à se demander si on n'aurait pas justement la mention de Dieu qui est expressément signalée au milieu de la situation la plus dramatique qui soit. Bon, je vous le mets comme hypothèse de travail. J'y reviendrai tout à la fin. Dans ce cas-là, on a une mention d'Emmanuel. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et après, je formulerai l'hypothèse qu'on a là le début, enfin qu'on a là les prémices de la fin de l'évangile de Matthieu, mais on va voir. Il faut qu'on se dépêche. Sinon, on n'arrivera pas à Matthieu 28. Donc, on passe à la deuxième partie. La parole de l'Éternel vint à moi. Enfin, il y eut une parole de l'Éternel vers moi, disant « Et toi, fils d'homme classique, prends un bois. » Alors, c'est un. On précise un bois. Mais on précise un bois, là, ça vous sonne comme ça, il n'y a rien d'exceptionnel, sauf que... Ça, c'est un bois. Et ça, c'est un ossement. Etzel. Etzel. En fait, à la question, est-ce qu'on a deux textes qui n'ont rien à faire ensemble? Eh bien, il y a quand même un bout de sonorité qui nous fait dire, et même d'imagination, c'est-à-dire qu'un bois et un os, vous voyez, il y a quand même une sorte de connexion. Et est-ce qu'on n'a pas là... deux textes qui, effectivement, sont peut-être écrits séparément, mais qui sont ensuite suturés en utilisant ce mot « valise ». Voyez. Donc, prends un bois, mais on précise bien « Erad », et puis écrit dessus « le Yehuda », donc pour Juda. Alors, Yehuda, c'est intéressant. Donc, ici, donc, le Yehuda, pour Juda. Juda, en fait, c'est la façon dont on va désigner plus tard les Juifs. Et Juda, c'est bien sûr la tribu de Juda, mais ça va devenir plus qu'une tribu, ça va être la figure d'Israël, en fait. Et alors, il y a une étymologie intéressante, c'est de se dire « Judas, ça ne vient pas de nulle part ». C'est en fait une façon de dire quelle est la vocation du peuple juif. Et la vocation du peuple juif, on le retrouve dans le fait que on retrouve des lettres du tétragramme, c'est-à-dire du nom propre de Dieu, hein, les quatre lettres, qu'on traduit souvent par l'Éternel, et puis il reste cette lettre. Dalet, la fameuse lettre qui souvent se confond avec le Resh. Et donc, Juda, c'est Dalet, l'Éternel. Et Dalet, ça veut dire la porte. Et donc, Juda peut se comprendre comme étant la porte qui ouvre sur l'Éternel. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est dans le rôle de la médiation, pour reprendre le terme de François, ça propose... Ça met à disposition, mais il n'y a rien de mécanique. Vous pouvez ou non franchir le seuil, etc. C'est une porte ouverte, c'est une possibilité qui est offerte. C'est, voilà, on pourvoit. Bon. Ça, c'est pour vous donner quelques éléments, comme d'habitude, hein, c'est à titre hypothétique, toutes ces affaires-là. Donc, on prend un bois pour Juda. Et les fils d'Israël, c'est bizarre qu'on mentionne ensuite Joseph, qui est donc l'un des fils d'Israël, et qui est réputé pour être pour désigner les territoires du nord. Juda, c'est le territoire du sud, on parle des Judéens, c'est Jérusalem par exemple, et le nord, qu'on appelle plus facilement Israël dans les livres bibliques. Ici, ça va être Joseph, qui a deux enfants, Ephraim et Manassé. Et donc, Ephraim, là, on l'a tout de suite. Et donc, on a deux bouts de bois avec le royaume du Nord et le royaume du Sud, c'est-à-dire le schisme après Salomon. Donc, vous avez ça dans le premier livre des Rois. Une fois que le royaume a été unifié, on a quelques rois qui se succèdent, En fait, il est surtout unifié à partir de David dans la narration, donc il y a juste Salomon qui lui succède. Et après Salomon, il y a une division entre le royaume du nord et le royaume du sud, Juda au sud et Israël, bizarrement au nord, donc ici, en fait, Joseph avec Ephraim et Manassé. Approche-les l'un de l'autre. Et dans ce verset 17, ce qui est frappant en hébreu, c'est que vous avez quatre fois l'unité, Erad. Hein, je vous ai dit, on va prendre un bois, et puis on va prendre un autre bois, à chaque fois c'est Erad. Et là, vous l'avez quatre fois. Approche 1 vers 1, un bois, un, et il y eut un dans sa main, en quelque sorte. Et c'est vraiment la question de l'unité, en fait. Alors, la question de l'unité, je vous propose de l'aborder de manière... je vous dirai ça après. Ici, en tous les cas, il y a vraiment le souci chez Ézéchiel de penser la question de l'unité. Et la question de l'unité, elle peut être dite soit par la répétition insatiable, c'est-à-dire qu'on va épuiser le cerveau pour que l'idée de l'unité rentre. En quelque sorte, le verset 17 parle de cela. Soit on va utiliser un autre procédé, et c'est en fait ça aussi qui est utilisé ici, c'est qu'on va mettre le peuple en situation de responsabilité. C'est-à-dire qu'au lieu d'imposer l'unité, on va faire en sorte que l'unité soit demandée par le peuple. Et c'est la raison pour laquelle on peut considérer que le verset 18 est au milieu de ce passage. Je vais essayer de vous montrer cela. Le verset 18, c'est quand le peuple va prendre la parole. C'est la première fois que le peuple prend la parole. Le peuple s'exprime ici, en posant une question, une phrase interrogative d'ailleurs. Je vous laisse imaginer quelle réponse donner à cette phrase. Mais je vais vous montrer qu'il y a une sorte de structure concentrique. Enfin, je vais vous le montrer, c'est... un exégète qui me l'a mis sous les yeux, Tidiman. Une structure concentrique, ça veut dire qu'on va avoir une structure comme ça. Je ne sais pas si vous voyez juste en bas. Je vous mets les numéros de versets. Donc on a le verset 16a. Ça, c'est le prophète qui reçoit l'ordre de prendre le bois. Ensuite, on a 16b, c'est le prophète qui prend le bois pour Juda. On a 16c, c'est le prophète qui prend le bâton pour Joseph. Ici, on a 17, 18, avec justement les interrogations, le peuple qui prend la parole. Et puis là, on va avoir une sorte d'effet miroir, où c'est en 19a, Dieu, cette fois, qui prend le bâton de Joseph. Là, c'était le prophète, maintenant c'est Dieu qui prend le bâton de Joseph. Ici, c'est Dieu qui prend le bâton de Juda, alors que là, c'était le prophète. Et puis ici, on a le prophète qui tient les deux morceaux. Et donc, le fait qu'on laisse la parole au peuple, c'est ce qui nous permet de passer d'une situation où le prophète a les choses en main à une situation où c'est le divin qui a les choses en main. Dire que c'est le divin qui a les choses en main, c'est une façon de dire que le divin rentre en course à nouveau. C'est-à-dire que le fait d'avoir suscité l'interrogation chez le peuple, c'est ce qui suscite du désir chez le peuple. En posant une question, le peuple manifeste qu'il s'interroge, qu'il fait preuve de curiosité, qu'il y a une sorte de passion de vivre qui commence à s'instaurer. Et cette passion, elle s'inscrit dans le temps, dans la durée, par la mention que Dieu prend les choses en main. Dire que Dieu prend les choses en main, ça peut être une façon de dire que notre façon d'envisager la suite, c'est pas simplement transitoire, mais c'est, là encore, dans la perspective d'une réalité dernière. C'est juste d'abord Patrick. Oui.
La voix du peuple devient la voix des dieux.
Alors on peut aussi absolutiser l'aspect démocratique. On peut considérer qu'il y a quand même dans le texte une distinction entre le peuple et le divin. Et le divin, c'est lorsque le peuple porte sa perspective non pas dans l'immédiateté. L'immédiateté, c'était le désespoir. Mais il le porte selon une perspective possible. Et donc, en fait, le peuple s'autorise à envisager plus que ce qu'il repère. On pourrait dire cette intelligence collective du peuple permet d'envisager plus que ce qu'il n'espérait jusque-là. C'est-à-dire qu'il retrouve j'essaie de trouver d'autres termes plutôt que de répéter toujours le terme espérance. Ce peuple-là va pouvoir envisager à nouveau frais. À nouveau frais, c'est-à-dire de façon nouvelle. On parlait tout à l'heure de renouvellement, mais c'est une création, c'est-à-dire que ce n'est pas un retour à un état ancien, ce n'est pas une restauration au sens strict du terme, c'est plutôt le fait de découvrir qu'autre chose de vivable est possible. C'est ce que je disais dans ma prédication du samedi saint au sujet de Jésus qui dit « j'ai soif ». C'est la pédagogie pour faire boire les ânes qui n'ont pas soif. Hein ? Comment faire boire un âne qui n'a pas soif ? On fait venir un âne qui a soif et en buvant, il va donner envie, il va donner soif à celui qui jusque-là n'avait pas soif. Et donc le prophète initie quelque chose et ce qu'il initie va ensuite trouver son niveau de croisière, et c'est ça qu'on peut appeler le destin dans les mains de Dieu. Le destin dans les mains de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un destin à hauteur du désespoir, c'est un destin à hauteur d'une espérance qui confine à ce qu'ici on pourrait appeler la damitude.
Ah, ce verset 18, c'est pas un dialogue
que le peuple
entame. C'est tout simplement, il dit à Ézéchiel, on n'a rien compris, dis-nous ce que ça veut dire. Et l'Éternel reprend la main à ce moment-là, et leur dit au verset suivant, merci.
Mais est-ce que, qu'y a-t-il de plus beau que de quelqu'un qui dit, je n'ai pas compris? Ça veut dire qu'il a envie de comprendre. Il n'y a rien de pire que celui qui reste muet, qui s'en fiche. C'est-à-dire que l'interrogation, il n'y a rien de plus beau que l'interrogation. C'est-à-dire que c'est toute la philosophie des textes bibliques quand vos enfants vous demanderont ce que signifie cela. Et bien, quand ils posent des questions, c'est ça qui est gagné. C'est ce que disait je ne sais plus quel rabbin. Ça, c'est le bon conseil pédagogique que moi, je ne suis pas, mais il faut le faire. Quand les enfants rentrent, il ne faut pas leur demander quelles sont les bonnes réponses qu'ils ont données dans la journée en classe. C'est quelles sont les bonnes questions qu'ils ont posées. Voilà, à partir du moment où il y a une question, le monde est sauvé.
Alors, cette interrogation, vous, ce que signifie ces choses, ça se rapporte uniquement au bois, donc qui marquait, c'est pas. Moi, je ne comprends pas
par
rapport à l'épisode des ossements.
Non, mais si ce n'est que l'épisode des ossements, c'est une clé de lecture pour la suite. C'est-à-dire que ça permet de métaphoriser la mort sociale et ça permet du coup de dire quel est le processus dans lequel le peuple va s'engager. Le peuple va reprendre chair. C'est le texte que je vous ai mis de René Girard, sur la quatrième page. Écriture judéo-chrétienne. Jamais je n'ai pensé que ces textes étaient là pour être contemplés passivement comme des beautés naturelles. La sidération, vous savez. Les arbres d'un paysage, par exemple, ou les montagnes dans le lointain, ou les ossements desséchés. J'ai toujours espéré que le sens ne faisait qu'un avec la vie. La pensée actuelle nous entraîne dans la vallée des morts, dont elle catalogue un à un les ossements. Un, un. Nous sommes tous dans cette vallée, mais il ne tient qu'à nous de ressusciter le sens en rapprochant les uns des autres tous les textes sans exception, plutôt que certains d'entre eux seulement. Toute question de santé psychologique me paraît subordonnée à celle plus vaste du sens partout perdu et menacé, mais qui n'attend pour renaître que le souffle de l'esprit. Il ne s'en faut que de ce souffle désormais pour susciter de proche en proche l'expérience d'Ézéchiel dans la vallée des morts. C'est-à-dire que Ézéchiel, si on suit René Girard, pourrait nous dire, pourrait nous donner une des possibilités pour ressusciter la vie lorsqu'elle est malmenée là, aujourd'hui. C'est-à-dire que pour redonner du sens, il s'agit déjà de remettre en relation ce qui a été abusivement séparé. Parce que, vous voyez, quand il y a par exemple une population, une nation qui est en pleine situation de désespoir, eh bien le premier réflexe c'est l'isolationnisme. Et c'est chacun qui se morfond de son côté sur son sort. En fait, ce texte dit, mais quel dommage! Alors que vous avez chacun la possibilité d'interaction extrêmement vivifiante les uns avec les autres. Et il suffirait que quelqu'un se lève pour réaliser ce rassemblement, cette synagogue, c'est-à-dire les chemins qui convergent, ce synode, pour que vous soyez à nouveau sur vos pieds, plutôt qu'accablés. Et ce qu'on attend du coup d'un prophète, c'est qu'il ait cette capacité de rassemblement. Ce qui fait que les prophètes qui clivent sont plutôt de faux prophètes. Bon, je dis comme ça en passant. Ensuite, donc les bois sur lesquels tu auras écrit sont dans ta main sous leurs yeux. Et à nouveau le verset 21, je les ferai venir vers Admatam, donc vers Adama, hein, vers l'adamitude encore. Une fois de plus, il y a un rapport peut-être avec l'humanité. Bon, compte tenu du temps qui nous reste, je vous rends attentif à deux points sur la dernière partie de ce texte. Souvenez que la fois dernière, on s'était dit, tiens, il n'est plus question de roi, il est question de prince, avec Ézéchiel 34. Et bien là, il y a à nouveau le roi qui revient. Il remonte le bout de son nez, sauf qu'au verset 25, il est à nouveau question du prince. Donc, possibilité qu'il y ait là deux traditions qui viennent se mêler. Possible que ce soit le moment où David est à la fois convoqué comme figure tutélaire, c'est-à-dire celui qui était justement pétri d'humanité, hein, c'est-à-dire qu'il est vraiment humain au sens où il est complètement pécheur, complètement pardonné, et il en vit de cette dynamique-là. Et en même temps, on va retirer quelques prérogatives du roi. Le roi avait quelques prérogatives, que ce soit constituer le clergé, que ce soit ériger un autel, que ce soit modifier le calendrier, que ce soit bénir le peuple. Et il y a la possibilité, bon, peut-être que je pousse un peu le bouchon, mais qu'en supprimant certaines de ses prérogatives, on ouvre la possibilité de quelque chose qui, dans la couche sacerdotale, sera assez présente, le principe du sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, c'est qu'on a une nation sainte. C'est-à-dire qu'il y a certains clergés, mais en fait, tout le monde est appelé à constituer le véritable clergé. Et c'est quelque chose qu'on trouvera ensuite dans l'épître de Pierre, effectivement, le sacerdoce universel. Mais peut-être qu'en passant de roi à prince, c'est-à-dire en perdant quelques prérogatives du roi, elles soient distribuées sur l'ensemble du peuple. Possible. Ensuite, autre chose, par exemple, au verset 23, vous voyez que les gens vont être délivrés de toutes leurs habitations où ils ont péché. Habitation, c'est là où ils se sont installés, c'est Yachav. Il faut plutôt imaginer que c'est là où les gens se posent que là où les gens ont établi une maison. Vous voyez, Yachav, c'est plutôt se poser et vivre. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir posé des murs et un toit. Et un autre mot qui est utilisé un peu dans cet esprit, c'est au verset 27. C'est Mishkani, ma demeure. Dans Mishkani, on entend Shakan, enfin demeurer. On entend aussi Shekina. Ça a été théorisé dans le judaïsme comme la présence de Dieu. Et en grec, peut-être qu'il y a un rapport avec Skene, la tente. Et c'est ce qu'on trouve dans le prologue de l'évangile de Jean. On dit que Dieu a habité parmi nous. En fait, il a planté sa tente parmi nous. Et ça indiquerait cet idéal nomade, qui n'est pas vraiment sacerdotal, hein, à vrai dire, c'est plutôt deutéronomiste. Mais cet idéal, en tous les cas, qui traverse quelques textes bibliques, où il s'agit de ne jamais se ficher en terre, mais de toujours rester prêt au voyage, toujours être en capacité de partir et de continuer à traverser, c'est-à-dire de pouvoir être hébreu. Le terme hébreu n'apparaît pas du tout dans ce texte, hein. Mais il y a la possibilité d'une installation beaucoup plus mobile et nomade que ce que les textes pourraient nous laisser penser dans notre conception 21e siècle avec des bâtiments qui ont 400 ans, etc. Vous voyez, bien établis, pierres de taille, etc. Pardon ? Oui, oui, la fête des tentes pour rappeler cet idéal nomade qui a encore lieu aujourd'hui, hein, Soukhot. Et alors, qu'est-ce qui me faisait dire qu'on a une sorte d'ambiance de fin d'évangile de Matthieu ? Les nations sauront que moi, je suis l'Éternel qui sanctifie Israël quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux à toujours. Vous voyez le « avec moi » de tout à l'heure, « imi ». C'est un peu l'Emmanuel. Et je trouve que ça a une ambiance de « aller de toutes les nations faites des disciples ». Bon, alors, il ne s'agit pas de les baptisons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais « apprenez-leur à regarder tout ce que je vous ai enseigné ». Je veux dire, c'est rempli d'ordres, hein, des mitzvot partout là, dans ce texte. « Voici, je suis avec vous tous les jours ». Jusqu'à la fin du monde. Ad Olam, il y a l'histoire de l'alliance éternelle. C'est Berit Olam, ici. L'alliance qui n'a pas de fin. Eh bien, je trouve qu'il y a là du matériel pour la fin de l'évangile de Matthieu. Voilà, dans cette intertextualité, Ézéchiel ne fournit pas simplement du matériel à l'Apocalypse, mais peut-être aussi à ce passage-là. Le verset 26, ça finissait par « Je donnerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Oui.
Autour du sanctuaire, je donnerai au milieu d'eux, etc. À partir de quel moment dans l'histoire il y a eu cette séparation entre Juda et Israël ? Ce texte-là, c'est un texte de réconciliation avec les deux bois.
Oui. On peut considérer que c'est après le règne de Salomon. Et le royaume du Nord chute vers 722-721. Et c'est donc plus tard, vers par exemple 587, disons, que le royaume du Sud est assiégé, disons. Et Ézéchiel ne doit pas simplement penser la réconciliation nord-sud, il doit aussi penser la réconciliation exilée-non-exilée. Pour cela, je pense que dans les bois, il y a des trucs bizarres sur le fait qu'on mentionne et Judas et Joseph. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de croisement. Ouais, ben là, ça n'a aucun rapport avec le texte pour le coup. Hein. Alors là, là, je rentre pas dans votre combine. Hein. Samarie, c'est le royaume du Nord.
C'est
Sichem.
C'est ça.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est un peu ça aussi, comme, mm-hmm. comme une marge de réconciliation. De
si ce n'est que, pour le coup, ils ne sont pas du tout réconciliés. Et ce qui explique... Enfin, je veux dire, dans les textes bibliques, il y a plein d'endroits où le royaume du Nord est méprisé. Vous prenez, par exemple, c'est le Deutéronome... quand on explique ce que le peuple devra faire une fois qu'il sera entré en terre promise, il y a l'histoire des bénédictions et des malédictions autour du mont Ebal, donc le Garizim et le mont Ebal, donc c'est autour de Sichem. Garizim qui est considéré comme le nombril du monde par les Samaritains. Et selon qu'on met les malédictions ou les bénédictions sur l'endroit ou sur un autre, il y a des versions divergentes, ça montre qu'il y a une polémique sur les lieux, parce que Sichem va se considérer comme le lieu central par opposition à Jérusalem. Et donc les textes bibliques, notamment le Deutéronome, conservent la trace de ces polémiques-là. Et je trouve que c'est intéressant qu'il ne les ait pas effacées d'ailleurs. Ça permet à la fois de parler de centralité de culte, puis de montrer qu'il n'y a pas de monopole non plus, quoi. Et d'ailleurs, quand les Hébreux vont rentrer en terre promise, il y aura la question de « et les tribus qui sont transjordaniennes ?» Hein, il y a une tribu ennemie qui est de l'autre côté du Jourdain. Et elles font quoi? Elles ont le droit de monter un sanctuaire et d'avoir un lieu de culte ou pas? Et ça sera l'occasion d'un passage dans le livre de Josué. Voilà pour ce coup-ci.